Frères et sœurs bien-aimés, ces derniers dimanches avec Saint Jean, nous avons mieux compris les deux dimensions, les deux niveaux de la vie dans son évangile. Le premier que nous partageons tous, être en vie, rester en vie, et puis être un vivant, avoir la vie en soi, avoir foi en cette vie qui nous est donnée par Dieu. Or, cette vie véritable, cette vie en plénitude, la vie éternelle, comme la nomme Saint Jean dans son évangile, c'est évidemment une vie déjà pour maintenant. C'est la vie qui nous traverse, qui est la source jaillissante en nous, comme on l'a vu avec le récit de la Samaritaine. Et au fond, elle est en chacun de nous lorsque nous sentons bien, au fond de nous, que cette vie, nous la recevons et puis que nous savons aussi la donner. Et que ce don se fait dans la joie et pas simplement comme un devoir moral pesant, parce qu'alors on sent que c'est la vie qui sort d'elle-même, c'est la vie qui aime, elle sort de l'horizon étroit du simplement être en vie, et du coup c'est la vie qui trouve les manières d'aimer concrètement dans la situation présente de chaque instant, malgré les contraintes et parfois les très fortes contraintes du temps présent. Et nous avons vu par ces rencontres comment Jésus est celui qui vient en quelque sorte faire renaître cette vie-là, la vie qui reçoit et qui se donne, en celui ou en celle qu'il rencontre, qui est certes toujours en vie, qui reste en vie, mais qui n'est plus vraiment vivant. On pense à la Samaritaine, on pense évidemment à l'aveugle-né. Et puis, en fait, à toutes les autres personnes que Jésus rencontre dans les évangiles. Mais il reste tout de même cette ultime question, c'est que par-delà toutes les morts qui peuvent être déjà présentes dans nos existences, ces existences qui sont cabossées, des existences qui peuvent être prisonnières, comme l'eau du puits de la Samaritaine, ou des existences assombries, obscures, comme celle de l'aveugle-né, la question demeure de ce qu'on nommera dans les évangiles l'ultime ennemi, la mort elle-même, la mort biologique, la cessation de notre être en vie, et puis pas seulement la mort de telle personne, mais le deuil, donc une forme de mort, une forme de perte qui est une mort pour tous ceux, toutes celles qui restent en vie autour de cette personne disparue. Et dans ces conditions, évidemment, comment poursuivre la vie véritable? Comment être à nouveau celui qui reçoit, accueille la vie et qui peut la donner, et pas simplement survivre à celui ou à celle qui est parti, qui m'a quitté? Alors le récit d'aujourd'hui affronte cette réalité, et elle l'affronte à travers le récit de la résurrection de Lazare, juste avant que la passion de Jésus ne commence dans l'évangile selon saint Jean. La mort d'un ami, Lazare, ses sœurs, Marthe et Marie, Jésus et ses disciples, le voisinage, ce que saint Jean va nommer les Juifs, tout un monde donc qu'on voit réagir face à cet inéluctable, la mort de quelqu'un, la mort de Lazare. C'est la raison pour laquelle nous écoutons ce récit dans ce dernier dimanche de Carême, avant que ne commence la Semaine Sainte où nous allons faire mémoire de la Passion, de la Crucifixion, puis dimanche de Pâques, de la résurrection du Seigneur. Alors saint Jean organise son récit comme un passage, justement. Il organise tout le récit de la résurrection de Lazare comme une Pâque qui sera le signe juste avant la Passion, du signe de la croix et de la résurrection, de la Pâque que Jésus va vivre lui-même. Chacun dans ce récit, vous pourrez le revoir, le goûter à nouveau, s'il veut vivre, et s'il veut vivre vraiment, et pas simplement survivre dans le désespoir ou dans la peur ou dans la résignation, va devoir vivre une Pâque, un passage d'une peur qui peut le ronger, d'un deuil qui l'accable, d'une émotion qui peut le submerger pour aller vers Jésus, qui est vraiment dans saint Jean le Seigneur de la vie, la lumière de la vie, la parole de la vie véritable. Et chacun, en quelque sorte, va devoir sortir de sa position initiale pour aller vers la vie que Jésus lui propose. Jusqu'évidemment à la sortie ultime dans le récit, celle de Lazare, la sortie du tombeau, sort. Alors vous avez peut-être bien repéré qu'il y a deux Béthanie dans ce récit. Il y a le village dans lequel Jésus est réfugié avec ses disciples, c'est le Béthanie au-delà du Jourdain, le Béthanie où Jésus a reçu son baptême, le baptême de conversion de Jean le Baptiste. C'est un peu comme un retour aux sources, si je puis dire, pour saint Jean, avant le départ définitif vers la Passion. Et puis il y a l'autre Béthanie, qui est de l'autre côté du Jourdain, le village de Marthe et Marie, où Lazare, malade, va mourir. Ainsi, le récit de saint Jean va faire traverser le Jourdain à Jésus pour affronter l'ennemi avec un E majuscule, la mort, et pour nous montrer que Jésus, dans ce signe, en sort victorieux. Saint Jean, c'est au fond sa manière de figurer, à travers un déplacement concret, un changement de lieu d'un Béthanie à l'autre. Saint Jean nous parle ici du baptême, mais du baptême cette fois selon Jésus, et pas simplement du baptême d'une conversion selon le Baptiste pour échapper à la colère qui vient, au jugement de Dieu. Mais c'est le baptême de Jésus désormais, c'est-à-dire c'est le baptême qui fait passer de la mort, de toute forme de mort, à la vie véritable. Évidemment, pour une oreille biblique, les images affluent, puisque Jésus apparaît dans ce passage, dans cette traversée du Jourdain, un peu comme le nouveau Moïse, celui qui nous fait atteindre non plus cette fois une terre promise, mais le royaume, c'est-à-dire la vie véritable, la vie en Dieu, et c'est cela le baptême chrétien. Ensuite, au fond, il nous faut lire l'ensemble du passage, c'est-à-dire la Pâque de chaque personne ou groupe de personnes qui sont au fond comme chacun de nous dans leurs attitudes et leur manière de réagir à la traversée de Jésus qui affronte l'ennemi. C'est d'abord les disciples dont vous avez entendu la parole de Thomas qui résume au fond leur fatalisme. Eh bien, allons-y, nous aussi, puisqu'il nous faut mourir avec lui. Les disciples, en réalité, vont donc devoir affronter leur peur panique de la mort. Et nous, nous savons évidemment ce qu'il en sera lors de la passion, du procès, du jugement, de la condamnation de Jésus. Nous verrons comment ils se dispersent dans la panique qui les saisit et nous ne pouvons évidemment que les comprendre. Et puis, il y a Marthe, celle qui accourt au devant de Jésus, qui sort du village qui symbolise la mort pour aller vers la vie et qui nous fait ici une merveilleuse profession de foi. Oui, je le crois Seigneur, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde, c'est-à-dire qui vient dans notre réalité, qui passe dans cette réalité où il y a de la peur, du désespoir, où il y a la mort elle-même. Et la voilà qui, dans cette rencontre, étant sortie, en quelque sorte, d'elle-même, de sa tristesse, et puis du reproche quand même qui pointait sur ses lèvres, hein, « Si tu avais été ici, quand mon frère était encore en vie, peut-être aurais-tu pu le guérir. » Elle sort de cela, de ce reproche, et à nouveau, la vie est en elle. Elle peut, au fond, témoigner qu'elle ne croit pas simplement que « Oui, après la mort, il y aura peut-être bien une résurrection, mais que, ici et maintenant, elle est capable, elle, d'être à nouveau une vivante, et pas simplement de survivre à la mort de son frère, à la détresse qui est en elle. Il y a Marie. Alors Marie, elle est appelée par sa sœur, vous avez vu, parce que la sœur est désormais devenue disciple. Marthe, par sa profession de foi, celle qui est venue du cœur, et dont la parole est désormais la parole d'un disciple qui a foi dans son Seigneur, cette parole, elle est en quelque sorte puissante comme celle de Jésus, et elle va provoquer la sortie de la sœur, Marie, avec ici une autre forme de personnage que nous pouvons tous être, Marie submergée par l'émotion, Marie qui en quelque sorte répand sur tout l'entourage son émotion, sa tristesse, dont on ne sait plus bien à l'écoute du récit de saint Jean si finalement cet entourage la console en pleurant avec elle ou si l'entourage la maintient dans sa vague de tristesse qui la submerge. Elle sort. Et elle va à la rencontre, elle aussi cette fois, avec le reproche à la bouche, sur les lèvres. Et puis il y a les Juifs, Les Juifs, c'est-à-dire au fond tout l'entourage villageois, les personnes proches de ces deux sœurs, qui partagent l'émotion et qui évidemment, j'allais dire, c'est la foule. C'est la foule dans toute sa splendeur, c'est-à-dire la foule qui a le reproche et le jugement évidemment très très prompt à la bouche sur Jésus. Lui qui a guéri l'aveugle, ne pouvait-il pas être là alors que son ami était malade? Voilà, on voit très bien ici comment cette foule, elle va elle aussi devoir sortir, voir le signe et avoir la liberté de l'accueillir. L'évangile nous dit « beaucoup crurent en lui ». Si l'on continue l'évangile, il y a ceux aussi qui vont partir pour le dénoncer. Et donc on voit bien que le signe lui-même appelle, mais n'oblige personne. C'est bien en ce sens-là que ce n'est pas un miracle au sens où ça obligerait tout le monde, c'est un signe que chacun lit avec ce qu'il a déjà dans son cœur, un cœur qui reste encore ouvert à la possibilité, à l'inouï, ou un cœur qui est déjà fermé sur la condamnation et le jugement. Et puis il y a évidemment Lazare. Lazare, celui qui ne dit rien, pas un mot, dans tout l'évangile, une figure un peu étonnante, une espèce de passivité, mais Lazare qui lui aussi est invité à rencontrer la parole de vie, puisque la pierre roulée, cette pierre que Jésus nous demande d'enlever, cette pierre au fond qui est symbolique de nous-mêmes, de notre obstruction en nous à aller vers la foi et l'espérance, et puis ensuite à délier, c'est-à-dire à rendre l'autre libre de sa propre mort, de sa propre émotion qui peut le submerger, la parole de vie qui va dire « viens dehors, sors ». Évidemment, il y a Jésus lui-même, le Fils. Le Fils, c'est-à-dire celui qui loue le Père, vous avez vu, alors qu'il ne s'est rien passé encore. Parce que Saint Jean le présente ici comme celui qui est le Fils, il a foi. Il a foi parce que la puissance de la mort pourra certes atteindre son corps, sa vie biologique, mais pas sa vie en Dieu, pas sa vie véritable, pas sa vie éternelle, ça, la puissance de la mort ne peut l'atteindre. Cette vie qu'il reçoit du Père et qu'il donne à son tour, il la donne souverainement. C'est ce que saint Jean va montrer dans toute la Passion. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Ça, c'est Jésus. C'est le Seigneur de la vie. C'est celui qui n'arrive pas passif dans sa Passion. La vie est en lui et il va la donner à son tour. Alors, Seigneur, évidemment, comment ne pas lire ce récit en ce temps où la mort rôde? Et où bien sûr que je prends conscience de la Pâque, du passage que j'ai à vivre moi-même. Alors que la prière de chacun monte, suscite en moi la foi, suscite l'espérance de cette vie en Dieu qui, elle, ne mourra pas. Alors peut-être je pourrais sortir de l'émotion, une émotion qui me submerge, une émotion peut-être négative, une émotion qui me donne de l'angoisse, de l'inquiétude et qui peut-être envahit aussi mon entourage. Est-ce que j'y fais attention? Je pourrais peut-être aussi à nouveau accueillir la vie, elle m'est donnée, toujours, et puis trouver, comme je pourrais, dans le temps présent, c'est-à-dire avec les contraintes très lourdes de ce moment, des confinements, donner cette vie humblement, un message, un coup de fil, des courses, que sais-je. Chacun dans son entourage prendra soin de tout un petit monde qui est là, un peu comme Marthe et Marie, ses deux sœurs, avec tout ce petit monde qui les entoure. Et peut-être aussi alors que je pourrais à nouveau louer le Père comme le Fils, comme un fils et une fille du Très-Haut désormais, et retrouver de la sérénité, peut-être même de la joie au fond. Seigneur, après l'écoute de cet évangile, je vais prendre le temps, comme Marthe, de redire ma foi, avec mes mots peut-être, avant de les redire avec ceux de la tradition. Très bon dimanche à vous tous, frères et sœurs. Amen.